Chapitre 8. Diego. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Je suis espagnol, j'ai 35 ans, je vis à Barcelone, dans un appartement hors de prix situé sur la colline de Montjuïc, à quelques pas de la Fondation Miro. Appartement lumineux et design, pour ne pas dire impersonnel, qui me permet, en un coup d'œil, d'embrasser l'une des plus belles villes du monde avec Paris, New York, Londres et Rome. Voilà, comme ça j'ai égrené mon top 5 Lonely Planet. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. J'ai depuis 3 ans monté ma propre entreprise et je gagne très bien ma vie. Mon business se développe d'autant plus vite que je suis sur un marché totalement nouveau. Mes parents sont en pleine forme, notre famille est très soudée, j'adore ma petite sœur et mon petit frère. Tous deux ont d'ailleurs récemment rejoint mon projet. Ma sœur est une designer géniale et mon frère un photographe qui commence à se faire un nom. J'ai été mannequin il y a une dizaine d'années. J'ai beaucoup de succès auprès des femmes et aucune envie de m'attacher à qui que ce soit. Alors, je papillonne. J'aime me décrire comme un épicurien qui apprécie un bon dîner, une soirée arrosée, un petit matin dans les bras d'une inconnue rencontrée au hasard de la nuit. Je m'appelle Diego. Et j'ai tout pour être heureux. Aujourd'hui, mon quotidien est loin de mes études scientifiques, mais j'ai toujours gardé une certaine attraction, sans mauvais jeu de mots, pour tout ce qui tourne autour de l'exploration spatiale. Lorsque j'ai découvert dans la presse l'annonce de l'ESA, j'ai parcouru l'article avec une espèce de ressentiment logé au fond de mes tripes. Et puis, une phrase, en apparence anodine. Une recherche sur le web, les doigts tremblants et la lecture gloutonne de l'appel à candidature. Quand enfin j'ai compris tous les termes, l'excitation et la joie se sont mêlées à mes peines, à mes douleurs. Je me suis retroussé les manches, j'ai entrepris les démarches et rempli le dossier. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Dès l'apparition de ce mail portant la mention « confidentiel » il y a quelques semaines, mon cœur s'est mis à battre très fort dans ma poitrine. J'ai fermé ma messagerie, comme si elle allait provoquer une explosion de mon smartphone. Je me suis assis face à l'immense baie vitrée qui me permet, à la nuit tombée, d'observer les palpitations lumineuses de la ville. J'ai soufflé un instant, régulé ce qui pouvait l'être, puis j'ai lu le mail 2 fois, m'assurant d'avoir bien compris. Alors seulement, j'ai poussé un grand cri. Il y avait tout dans ce cri. La folie de cette aventure qui s'ouvrait, l'exaltation de l'instant et la rage de vaincre. C'était dingue, c'était beau, je n'en croyais pas mes yeux. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Aujourd'hui, je pourrais être fière de moi si seulement je me l'autorisais. Je n'ai mis personne de mon entourage au courant de ma sélection, à part ma famille. Je n'ai aucune envie qu'on le sache, aucune envie qu'on se dise « Mais pour qui se prend-il ? » On, cet œil invisible, impitoyable. J'aurais dû me blinder avec le temps, mais je n'y parviens pas. J'ai toujours l'impression que le monde entier va se réveiller dans un grand rire et me renvoyer à ce que je suis, à ce qui frappe, ce qui me définit dès la première seconde d'une rencontre, si je ne le cache pas, à ce qui remplit les regards de pitié, de gêne, de dégoût, qui me dégoûte encore, moi aussi. Lorsque je contemple mon corps nu. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. La seule chose qui me manque, c'est une jambe gauche. Dès l'instant où je l'ai vue, j'ai pensé, cette femme est comme moi. Il y a chez elle un je ne sais quoi inexplicable, une sorte de bienveillance, de vécu douloureux matiné de sourires apaisants. Je l'ai trouvée tout de suite très attirante, mais je n'ai pas vraiment osé lui parler, j'étais intimidée. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être la différence d'âge. Elle s'appelle Anna de Villers, elle a 48 ans. J'en ai 13 de moins. Elle va me considérer comme un gamin. Et dès qu'elle aura compris pour ma jambe, aucune chance qu'elle soit intéressée par un gamin handicapé. Quand je suis descendue de l'avion, je n'étais pas tout à fait dans mon état normal. Le voyage avait été rude et stressant, Avec une prothèse tibiale, c'est le petit nom qu'on donne aux prothèses qui remplacent le pied, la cheville et la partie de la jambe en dessous du genou, les voyages se transforment en parcours du combattant. Malgré les justificatifs médicaux, la peur que quelqu'un comme moi dissimule une Kalachnikov est toujours présente. À l'arrivée, j'étais éreintée, mais je ne pouvais décemment pas le montrer. Je suis candidat à l'espace, alors si j'ai du mal à supporter quelques heures en avion, je n'ai aucune chance. C'est donc armée de froideur et d'un air qui se voulait dur à cuire que j'ai débarqué à Hambourg. Je suis équipée de ma prothèse ultra-silencieuse, ultra-légère, invisible sous mon pantalon et quasiment imperceptible à la marche. Je n'étais pas très avenant, c'est vrai. J'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai pu avoir avec Nabila, qui est une femme originale et joviale. Ensuite, à part Anna, tous les autres m'ont semblé sans grand intérêt. Je dois avouer que quand Hansen, le grand astronaute, a commencé à draguer Anna ostensiblement, j'ai ressenti un certain agacement et je me suis dit que le moment était sans doute venu de briser la glace. Alors j'ai lancé l'idée d'une virée nocturne en incluant Nabila. Je ne pouvais décemment pas proposer à Anna, seule, elle aurait refusé tout net. Hambourg est une ville magnifique. C'est un port marchand non loin de la mer du Nord, par lequel transitent chaque année des milliers de porte-conteneurs. C'est aussi la deuxième ville d'Allemagne avec près de 2 millions d'habitants et une cité chargée d'histoire marquée par d'innombrables crues, incendies, bombardements. Sa préservation tient du miracle. J'ai décidé d'emmener mes deux cavalières françaises sur l'un des nombreux canaux qui parcourent la ville. Nous avons pris un taxi, acheté quelques bières, puis loué une petite embarcation à moteur. Nabila a explosé de rire lorsqu'Anna a failli passer par-dessus bord en tentant de prendre une photo. Puis, après avoir trinqué, nous nous sommes dirigés vers l'atmosphère nimbée de mystère de Speicherstadt, la ville des entrepôts, qui devient magique à la nuit tombée. Partout des bâtisses de briques rouges construites les pieds dans l'eau, des ponts enjambant les canaux, des scintillements entre les pilotis et, au loin, comme un contrepoint de modernité, l'iconique Elbphilharmonie, salle de concert symphonique semblable à une meringue futuriste que l'on dirait tout droit sortie de La mer de glace de Caspar David Friedrich. Grandiose. Anna et Nabila étaient fascinées et sont restées étonnamment mutiques lors de notre navigation au cœur de ce quartier. En arrivant au Binnenalster, le lac artificiel où se reflètent par touches impressionnistes les lumières de la skyline du centre historique, Anna a finalement rompu le silence. Elle a dit quelque chose sur la ressemblance d'Hambourg avec sa ville, ce qui nous a valu un nouvel éclat de rire de Nabila. « Tu compares une ville de la taille d'Hambourg à ton bled ? Et pourquoi pas à Roquefort à la Bédoule ? Compare à Venise ou Amsterdam, mais pas à ton village ?» L'île sur la Sorgue est une ville de 20 000 habitants, je te signale. Ce à quoi Nabila a répondu avec un sourire moqueur. « Voilà, exactement !» Anna était vexée. Alors, dès notre retour sur la terre ferme, Nabila a proposé d'aller chercher de nouveaux rafraîchissements pour se faire pardonner. Anna a hésité. J'ai eu l'impression qu'elle avait peur de rester seule avec moi. J'ai fait une blague sur mon côté inoffensif et je ne suis pas sûre que ça l'ait amusée. Elle est restée malgré tout. Et en attendant le retour de Nabila, nous nous sommes assis sur un banc au bord du lac. J'en ai profité pour engager la conversation. Les miroitements accentuaient la douceur de son visage. Et je l'ai trouvée belle, dans cette nuit allemande inattendue. Je ne sais pas si elle a senti mon regard, mais elle n'a pas détourné les yeux. Je lui ai posé des questions sur sa vie, et elle m'en a livré quelques bribes. Ses deux enfants, son ex-mari, sa soirée d'anniversaire un peu spéciale, et son rêve d'espace, probablement lié aux passions ésotériques de sa défunte mère, férue d'astrologie. J'ai senti qu'il y avait des zones d'ombre, des points sensibles, mais je n'ai pas insisté. J'étais déjà heureux de cet échange qui, dans le contexte de ce banc, au milieu de cette ville, prenait des allures de confidence. De mon côté, j'ai raconté le strict minimum et volontairement évité toute allusion à ma jambe. L'appel de l'ESA étant pour la première fois ouvert à certaines catégories de handicapés, j'imaginais passer les tests en étant exclusivement entouré de candidats par astronautes. Mais ce n'était pas le cas. Et j'ai trouvé élégant de la part de Lesa de m'avoir mêlé aux autres sans rien mentionner. Bien sûr, il n'y a aucun mensonge dans mon dossier. Il ne s'agit pas de passer les étapes jusqu'aux tests médicaux sans rien dire. Ce serait une perte de temps pour tout le monde. Mais puisque Lesa n'a rien révélé aux autres, je n'ai pas eu le courage de le faire. J'ai voulu prolonger cet instant suspendu, où les préjugés ne polluent pas les perceptions. J'ai donc simplement expliqué à Anna que ma petite entreprise fabrique des accessoires de mode en s'inspirant du kintsugi, cet art japonais qui sublime les objets brisés en réparant leurs fractures à l'aide de feuilles d'or. Les fines lignes étincelantes mettent en valeur les failles, forment un paysage unique et rendent ces objets non seulement plus beaux, mais aussi, paradoxalement, plus résistants. Anna s'est montrée très intéressée. Elle m'a alors dévoilé sa propre passion, qui présente d'évidentes similitudes avec la mienne. Je gère un jardin partagé dans ma ville, car c'est bien une ville, n'en déplaise à Nabila. Et il m'arrive quelquefois de semer des graines dans les anfractuosités des trottoirs. Je fais littéralement fleurir le bitume. Rien ne me fait plus plaisir que de voir pousser une jonquille au creux d'une route défoncée. J'ai trouvé cette idée merveilleuse. J'ai tout de suite adoré sa poésie. J'ai tout de suite adoré Anna. Après une trentaine de minutes, Anna a commencé à s'inquiéter pour Nabila, jusqu'à remarquer un SMS où elle disait avoir retrouvé les autres candidats dans un bar à proximité. Nous avons marché lentement, parce que je voulais faire durer l'instant, mais aussi parce que je voulais éviter de me laisser envahir par ces sensations qui me forcent à une légère claudication les soirs de fatigue. Parvenus dans le bar dont Nabila nous avait envoyé l'adresse, nous avons salué les candidats restants à cette heure tardive, puis nous avons finalement décidé de rentrer à l'hôtel, accompagnés de Nabila et d'une quatrième candidate. Au moment de partir, l'un des hommes m'a interpellé, comme pour confirmer une discussion qui avait eu lieu sans moi. « Diego, toi, tu es candidat dans la catégorie parastronaute, c'est bien ça ?» J'ai serré les poings et les mâchoires. J'ai regardé Anna. Quelque chose d'imperceptible venait de changer dans son regard. J'ai toujours envie de croire à l'absence de changement dans les regards, de croire que l'on peut accueillir mon handicap comme une information banale. Il a les yeux noirs, les cheveux bruns, une tache de naissance sur l'épaule droite, le teint mat, une jambe en moins. Mais je sais bien que c'est impossible. Je me suis sentie complètement con d'avoir menti, d'avoir dissimulé. Alors j'ai rangé mon orgueil et mon attirance quasi animale pour Anna. Je me suis tournée vers l'homme qui m'avait interrogée et j'ai répondu à la question. « Oui, c'est bien ça. Catégorie parastronaute.